Enjeux de santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'Enjeux de santé sur Radio Campus Rennes. Cette semaine, nous nous intéressons à la consommation de cocaïne à Rennes avec mes deux invités. Guillaume Pavic, bonjour. Vous êtes coordinateur du dispositif Trend qu'on va présenter par la suite au cours de l'émission. Et puis Nicolas Legendre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du mensuel de Rennes et vous avez consacré un dossier spécial sur la consommation de cocaïne à Rennes dans le numéro du mois de mars 2015. Alors, on dit de la cocaïne qu'elle n'a eu de cesse de se démocratiser au fil des années, qu'elle est désormais aussi accessible qu'une barrette de résine de cannabis. On peut lire aussi que la région Bretagne est l'une des plus consommatrices du produit en France, ce que certains expliquent par, je cite, « notre culture de la fête ». C'est ce qu'on peut lire dans le mensuel de Rennes du mois de mars. Consommée par une population jeune, 23 ans en moyenne, le plus souvent intégrée socialement, le cercle des consommateurs n'est pas facile à cerner du fait de son hétérogénéité. La cocaïne, c'est aussi bien sûr un trafic qui engrange des millions d'euros chaque année et dont les saisies d'exception se multiplient, comme ce 20 juin 2013 où par exemple 27 kilos de cocaïne avaient été saisis dans le quartier du Blône. Quelle est l'ampleur de ce phénomène? Qui sont les consommateurs? Où s'approvisionnent-ils? Et quels sont les moyens mis en œuvre aujourd'hui par les pouvoirs publics pour en infléchir la progression continue? Autant de questions auxquelles on va essayer de répondre avec mes deux invités, donc Guillaume Pavic et Nicolas Legendre. Alors tout d'abord, je me tourne vers vous, Guillaume Pavic. Je le rappelle, vous êtes donc coordinateur du dispositif Trend. C'est un dispositif qui permet d'observer donc les tendances en matière de consommation de stupéfiants sur Rennes, si je ne me trompe pas. Ça veut dire aujourd'hui qu'on dispose donc de données plutôt fines sur ce phénomène-là.
Oui, tout à fait. Donc l'objectif du dispositif Trend, donc Trend, ça veut dire tendance récente et nouvelle drogue. C'est un dispositif qui permet de fournir en complément des dispositifs existants, notamment les enquêtes en population générale, du type baromètre santé, des éléments de connaissance sur les phénomènes émergents liés aux usages de drogue, que ce soit en termes de description des usagers, les modalités d'usage du produit, les dommages sanitaires et sociaux associés à la consommation de produits, les produits émergents, les modalités d'acquisition de proximité, autrement dit le trafic, et les perceptions et représentations des produits. Donc le dispositif Trend existe depuis déjà une quinzaine d'années en France et est piloté nationalement par l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. Il existe 7 sites en France, Lille, Metz, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Paris et Rennes. Les 7 sites ont la même méthode de travail pour le recueil d'informations et l'analyse de ces informations. Chaque année, chaque site produit donc un rapport qui permet d'avoir une photographie assez précise sur la consommation de stupéfiants. Nos observations portent sur l'espace urbain à Rennes et sur l'espace festif plus largement sur toute la Bretagne. Donc sur la cocaïne, on peut dire que c'est un produit, on s'intéresse à tous les produits dans Rennes, mais c'est un produit sur lequel on porte une réelle attention. C'est un produit illicite, c'est le deuxième produit illicite le plus consommé en France, après le cannabis, mais très très loin après le cannabis. C'est vraiment deux phénomènes très très différents. Il n'y a pas vraiment de comparaison possible entre la consommation de cannabis et de cocaïne. Sur la population générale, en gros, il y a 5% d'expérimentateurs de cocaïne contre plus de 30% pour le cannabis.
D'accord.
Donc c'est vraiment deux poids, deux mesures. Et l'usage régulé de cocaïne est globalement relativement faible quand même en population générale. Par contre, notre observation plus locale montre que la cocaïne est un produit qui est relativement présent, accessible, mais c'est pas une nouveauté. C'est pas vraiment une nouveauté. Le phénomène est observé déjà depuis quelques années. Effectivement, la cocaïne, c'est un produit qui est très très largement associé à la fête.
Alors là, vous avez déjà brossé un tableau assez général. On va essayer de revenir après plus particulièrement sur certaines des thématiques que vous avez soulevées. Je pense notamment par exemple à la question du trafic dont vous venez de parler. En lisant le rapport Trends de 2010, j'ai pu voir que le trafic, ce rapport disait que le trafic n'avait pas beaucoup évolué quantitativement, mais que le nombre d'arrestations pour trafic de stupéfiants avait augmenté, par contre, sous l'effet des orientations judiciaires. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui en 2014? Est-ce qu'on constate comme ça une progression finalement pas si manifeste
Non, pour 2014, on peut dire que les éléments, notamment sur le trafic, sont dans la continuité des années précédentes. Il n'y a pas d'augmentation. On est plutôt sur quelque chose de plutôt stable.
Stabilité donc, en termes de trafic. Bon alors, autour de Nicolas Lejean. Je me tourne vers vous cette fois-ci. Alors j'imagine, là, on vient de parler de quelques données dont on dispose par l'intermédiaire du dispositif Trend. J'imagine que ça vous a été utile pour mener à bien l'enquête.
Très utile.
Pour le mensuel de Rennes, je le rappelle, du mois de mars. Alors moi, j'aimerais peut-être qu'on revienne rapidement sur la démarche journalistique, parce qu'elle me paraît quand même assez ambitieuse. Ça fait longtemps que vous souhaitiez sortir ce dossier ?
Ça fait plusieurs années qu'on a ce dossier-là dans nos tiroirs. Pourquoi ? Parce que on a tout simplement constaté, comme beaucoup de gens, hein, que la cocaïne est plus qu'une simple drogue ou qu'un élément anecdotique, disons, du paysage festif et récréatif. C'est une tendance sociétale qui n'est pas nouvelle. Effectivement, sa démocratisation est en cours depuis déjà plusieurs années. Mais nous, ça nous semblait quand même intéressant de s'y pencher, notamment parce que Rennes est, j'allais dire, un peu à la pointe en la matière, parce que ville festive, parce que ville étudiante, parce que avec une forte proportion d'étudiants et de jeunes, donc ça nous semblait vraiment vraiment pertinent, au-delà du côté un peu un peu racoleur en une, c'est-à-dire quand on met en une de notre magazine Enquête la cocaïne à Rennes, effectivement ça peut paraître très racoleur, mais pour nous c'est un vrai sujet de société et on a voulu l'aborder comme ça.
Oui, alors pour ceux qui ne l'ont pas lu, hein, je le rappelle, ça donne la parole donc à des consommateurs, aux acteurs de la justice, à des professionnels de santé, donc il y a une véritable enquête. Par contre, on note l'absence des dealers et j'imagine que ça peut s'expliquer.
La grande absence des dealers, effectivement. On a cherché à entrer en contact avec des dealers, on est entré en contact avec quelques-uns d'entre eux, par l'intermédiaire de consommateurs principalement. On leur a proposé d'intervenir, évidemment de façon anonyme, en tout cas de répondre à nos questions. On s'est heurté à des refus à chaque fois. Voilà, c'était notre volonté, hein, justement, de faire parler des dealers, puisque l'idée n'est pas d'avoir une approche monolithique avec uniquement la parole de la justice ou des forces de l'ordre. Mais on a des consommateurs qui témoignent dans le dossier. L'idée, c'était d'avoir des dealers. Malheureusement, on n'a pas pu en avoir.
On reviendra un peu sur cette question du deal au courant de l'émission. Je me retourne vers vous encore une fois, Guillaume Pavic. Dans le rapport Trend, sont mentionnés donc, des phénomènes que les auditeurs connaissent peut-être de nom, hein, donc le Go Fast et le Go Slow. Est-ce que vous pourriez peut-être déjà nous entretenir un peu là-dessus et savoir si c'est quelque chose qu'on observe actuellement concernant l'acheminement de la cocaïne sur Rennes ?
Oui, alors le Go Fast, c'est quelque chose qui c'est le transport express, hein, de quantités assez importantes de marchandises, pas que de la cocaïne, hein, ça peut être sur tout type de produits stupéfiants. Donc c'est quelque chose qui est plutôt médiatiquement très très remarquable, hein, quand il en arrive. C'est assez rare en Bretagne, il y en a déjà eu. Je crois que le dernier, ça doit être en 2012, dans la région entre Brest et Quimper, mais c'est très très rare. On est plus effectivement sur des phénomènes donc à l'inverse qu'on qualifie de go slow. Donc ça ne veut pas forcément dire du transport lent, mais plutôt du transport anonyme. La logique des transporteurs, des trafiquants, c'est d'être le plus discret possible, mais que ce soit pour la cocaïne ou pour tout autre produit. Et c'est vraiment cette logique, hein, des transporteurs, c'est d'être anonyme, et c'est vraiment un phénomène qu'on observe depuis pas mal d'années maintenant.
D'accord. Nicolas Lejean, vous avez peut-être pu obtenir des informations complémentaires au cours de l'enquête ou...
On a eu les informations qui sont celles des forces de l'ordre, en l'occurrence police et gendarmerie, section de recherche. Ce que eux disent, c'est que on a affaire aux filières traditionnelles. Quand je dis filières traditionnelles, c'est filières liées au trafic de drogue. Celles qui sont mentionnées en premier lieu, ce sont les filières algériennes, marocaines, albanaises. C'est celles-ci qui sont évoquées. Ce sont des individus qui œuvraient, par exemple, dans le passé sur du trafic de cannabis et qui sont adaptés à la demande. C'est-à-dire qu'il y a une demande de cocaïne, donc le dealer qui revendait du cannabis a diversifié son offre et s'est mis à la cocaïne. Ça, c'est le schéma global. Après, il y a des parcours qui sont extrêmement différents, etc. Mais c'est en tout cas ce que rapportent les forces de l'ordre en ce qui concerne, disons, une image globale, quoi.
Donc ils sont plutôt bien au fait, les forces de l'ordre, on va les appeler comme ça, plutôt bien au fait du trafic de cocaïne sur Rennes. Est-ce qu'il y a peut-être identification de certaines têtes pensantes, de réseaux, je ne sais pas si on peut parler en ces termes-là, par rapport à la taille de Rennes?
Il y a identification nécessairement. Après, c'est toute la difficulté du travail des forces de l'ordre, entre l'identification et l'arrestation. Mmh. Ensuite, le passage devant la justice, il y a quand même un fossé, quoi. C'est-à-dire que, qui est notamment lié à la problématique des moyens des forces de l'ordre. C'est-à-dire que nous, ce qui nous est apparu, c'est pas dit tel quel, mais c'est que l'enquête sur les filières cocaïne, c'est pas forcément la priorité numéro un des services de police et de gendarmerie. Ce qui fait que les moyens sont limités. Ils sont d'autant plus limités que le sujet n'est pas prioritaire. Résultat, on peut très bien identifier des filières sans avoir les moyens de les remonter et d'arrêter les personnes liées à ces filières.
D'accord. Guillaume Pavic, un mot complémentaire peut-être?
Pour compléter, c'est vrai que les services application de la loi, donc police, gendarmerie, douane, parquet, ont effectivement une bonne connaissance des ressorts du trafic. Et ce qui ressort, c'est que les organisations sont généralement très très bien huilées, avec une structuration pyramidale. Ils ont beaucoup de mal à pouvoir atteindre souvent le sommet de la pyramide. C'est très compliqué. Autant faire des affaires sur des consommateurs, de l'usager-revendeur dans la rue, c'est assez simple. Mais pour atteindre les têtes de réseau, c'est beaucoup plus compliqué pour eux.
C'est la fameuse division du travail extrêmement poussée qui caractérise les réseaux de distribution de drogue. Donc.
Tout à fait.
Allez messieurs, tout de suite je vous propose une petite pause musicale avec le groupe Rennais Heure et son titre Quiet Like.
I quiet like your hair, I quiet like your eyes, I quiet like your breast when you undress, I quiet like your legs, like your thighs, like your eyes, like your hands when you caress. I quiet like your cheeks, love your lips, love your mouth when you're talking, whispering.
Just keep on dreaming, I can't keep the sky. quite like the small of your back and the way you act. I quite like your best when you're careless. I quite like your tone. Love your song, love your strong when you play along. When I play along.
De retour dans Enjeux de santé sur le 88.4 de Radio Campus Rennes, avec mes deux invités pour parler de la consommation de cocaïne à Rennes, Guillaume Pavy, coordinateur du dispositif Trend, et Nicolas Legendre, rédacteur en chef du mensuel de Rennes. Un autre point sur cette question de la consommation de cocaïne à Rennes, puisque vous l'avez mentionné, vous réalisez aussi des typologies dans le dispositif Trend, vous suivez un peu des comportements de consommateurs. On a tendance à dire que la cocaïne va toucher tous les milieux sociaux. Est-ce que c'est réellement le cas? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, un gramme de coke, ça se vend en moyenne, si on suit le mensuel de Rennes, ça se vend en moyenne 65 euros dans la rue.
C'est un tout petit peu plus. On est plus sur une fourchette 70-80 euros le gramme. Effectivement, c'est un produit qui reste encore assez cher et pas accessible à tout type de population. C'est effectivement le prix peut-être un élément dissuasif à la consommation. Et on remarque que les consommations chez les plus précaires sont assez rares. Et du coup, les usagers qui souhaitent quand même consommer des stimulants peuvent se rabattre sur d'autres types de produits qui seront moins chers, notamment les amphétamines. On va être sur un produit à 15-20 euros le gramme. Donc là, c'est plus accessible. Chez les plus jeunes, par contre, il peut y avoir des phénomènes d'achat groupé. Un groupe de 4-5 personnes va acheter un gramme et vont se le partager pour la soirée.
Cette question de la sociologie un peu des consommateurs de cocaïne, c'est quelque chose que vous abordez aussi, me semble, dans le mensuel de Rennes du mois de mars.
Oui, bon, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense que la démocratisation, elle a lieu chez ceux, justement, qui ont les moyens de dépenser ces 65 ou ces 70 ou ces 80 euros du gramme. C'est vrai qu'en deçà, on a affaire à des populations pour qui c'est plus compliqué, notamment les mineurs, etc., qui n'ont pas forcément les moyens suffisants. En revanche, chez les personnes employées, ouvriers, etc., qui ont un salaire, je pense que c'est là qu'on observe une certaine démocratisation. Et dans notre dossier, il y a cet enquêteur qui nous cite l'exemple des marins-pêcheurs. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, etc. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il a constaté la consommation de cocaïne chez des marins-pêcheurs. Or, c'est pas forcément la population qu'on imagine en premier lieu, en tout cas. C'est pas le stéréotype du consommateur de cocaïne.
Est-ce que peut-être que, je ne sais pas, la question de la profession des personnes puisse être un déterminant éventuel à la consommation de cocaïne? On imagine que les marins-pêcheurs, ce n'est pas un métier forcément très, très simple à assurer. Pareil peut-être pour des professions dans le bâtiment ou avec des horaires atypiques où il faut tenir la barque.
Oui, puis on peut penser aux professions milieu de la nuit, des choses comme ça. Mais nous, c'est des données auxquelles on n'a pas vraiment accès. Là, on va être sur la sphère professionnelle ou la sphère privée. Et nos observations ne se portent pas sur ces populations parce qu'on n'a pas les moyens de le faire.
D'accord. Alors, vous distinguez donc plusieurs types de consommateurs. Je le rappelle, Guillaume Pavic, donc dans le rapport Trend, cette fois-ci 2011, vous distinguez donc trois types de consommateurs. Donc, les expérimentateurs, ceux qui consomment dans un cadre festif, les réguliers, voire peut-être même les dépendants. Donc, ça ferait trois ou quatre types de consommateurs. Qu'est-ce qu'on sait de la répartition de ces consommateurs?
Alors, effectivement, il y a plusieurs types de consommateurs, mais c'est très, très dur de pouvoir les quantifier précisément en termes de stats sur la répartition de ces différentes catégorie. Puis c'est pas l'objectif du dispositif Trend de faire des statistiques très précises là-dessus. On est plus là pour documenter, appréhender les profils des usagers de drogue. Et on le disait en introduction, de toute façon, c'est très très difficile de dresser un portrait type du consommateur de cocaïne. C'est très très difficile parce que c'est un profil extrêmement diffus du fait de l'éventail possible des consommateurs. Après, sur un des profils qui ressort, c'est les personnes dépendantes. Ce n'est pas le profil le plus important. Les dépendants, parce que la cocaïne, ce n'est pas le produit qui va causer qui va avoir le potentiel addictif le plus important par rapport à de l'héroïne, par exemple.
C'est chimiquement, la cocaïne est moins addictive, ouais. On va dire.
Là où on peut rencontrer des problèmes, c'est quand il y a des polyconsommations, parce que la cocaïne est rarement consommée de manière isolée. Des consommations avec de l'alcool ou alors d'autres stupéfiants.
Alors, ce qui est aussi très important, et là, c'est souligné par le mensuel de Rennes, ce sont les contextes de la consommation de cocaïne qui rendent particulièrement difficile l'intervention des pouvoirs publics. Vous le soulignez bien dans le mensuel. C'est consommé dans des soirées privées, dans des appartements en after. Mais vous donnez aussi peut-être des témoignages, il me semble, dans le mensuel, sur des patrons de bars pour qui ça a été problématique. Et donc, vous soulignez bien que c'est cette variété des contextes de consommation qui rend le phénomène assez difficilement appréhendable.
Oui, tout à fait. Des témoignages qui ont été difficiles à collecter, je précise, parce que ça, on a beau parler de démocratisation de la cocaïne, pour nous, le travail d'enquête a été extrêmement difficile, parce qu'on a beau connaître des gens qui consomment, on a beau qui consomment ouvertement, qu'ils le disent, les faire parler du sujet, c'est très difficile. Idem pour les patrons de bar qui sont au contact justement des consommateurs au quotidien, ça a été pour nous délicat. Et ça a pris du temps. Mais effectivement, on a plusieurs d'entre eux, donc des patrons de bar ou des serveurs, qui ont témoigné à ce sujet et qui disent que ça peut être compliqué parce qu'ils se retrouvent avec des consommateurs dans leur toilette. Donc ça peut créer un peu le bazar. Mm-hmm. Avec des gens qui viennent au comptoir et qui demandent carrément au serveur, t'as de la C, ou alors tu sais où je peux trouver de la C, etc. Bon, c'est pas non plus l'émeute, hein, faut pas sur-amplifier. Mais effectivement, certains de ces patrons de bar nous ont fait part de difficultés liées au sujet.
Et la question, comme je le disais, par exemple des afters ou des soirées privées, c'est quelque chose qui est souligné peut-être par les forces de l'ordre ?
Oui. Aussi.
En tant que difficulté.
Ben voilà, c'est souligné au sens où les forces de l'ordre savent que la cocaïne, elle est prise, elle est consommée dans ces lieux-là, dans ces contextes-là, dans ces moments-là, mais ils n'y ont pas accès. Mm-hmm. Et j'allais dire, c'est normal. Donc c'est toute la difficulté en fait de cette problématique et de ce sujet qui est quand même très lié à une sphère privée.
Tout à fait, oui, c'est pas comme on imagine la consommation de cannabis où on peut très bien voir un jeune fumer un joint dans la rue, alors que prendre un rail de coke dans la rue, c'est quand même pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Ouais. Je rebondis peut-être sur la question de la polyconsommation, Guillaume Pavic, vous l'avez souligné, donc une expression qui souligne le fait que la cocaïne est rarement consommée isolément, vous l'avez rappelé, elle est consommée avec de l'alcool, notamment. Mais on peut aussi remarquer dans le rapport Trend que c'est consommé avec des choses dont on ne connaît pas forcément l'existence. Ce sont les produits de coupe qu'on retrouve souvent dans la coke. Alors je ne sais pas si on peut désigner ce phénomène par le phénomène de polyconsommation, mais est-ce que vous auriez peut-être des données à ce sujet ?
Ouais. Alors pour les produits de coupe, tout est possible en fait. J'ai envie de dire, toute poudre à texture cristalline peut être un produit de coupe. Hein. Tout ce qui va ressembler à de la cocaïne sera mis dans le produit. Alors parmi les produits de coupe les plus fréquemment utilisés, on va trouver le lactose, hein, le paracétamol, beaucoup le paracétamol, et la caféine. Plus rarement, mais ça existe aussi, des médicaments, et qui peuvent du coup entraîner des effets indésirables. Hein. Ça peut arriver.
Il me semble, dans le mensuel de Rennes, vous faites l'expérimentation assez, assez flagrante, qui fait sourire aussi quelque part, d'aller essayer d'acheter un gramme de coke. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir un peu sur cette expérimentation que vous avez tenté de mener, puisque il ressort aussi de certaines enquêtes que la question de l'arnaque des consommateurs est quelque chose d'assez flagrant sur le territoire rennais.
Alors, il faut dire que nous, on s'est bien exposé à l'arnaque. Hein. On a voulu savoir en combien de temps on pouvait trouver de la cocaïne à Rennes. On est sorti de nos locaux à République, on a enclenché le chrono, on est allé sous les arcades et on a cherché de la cocaïne. On en a trouvé en 5 minutes chrono. On s'est délesté de 60 euros, donc pour un gramme. Et on s'est fait vendre quelque chose qui ressemblait à de la cocaïne, c'était de la poudre blanche. Il se trouve qu'on est allé faire un test ensuite au commissariat et que le détecteur n'a pas réagi. Ça veut dire que dans cette poudre qu'on a achetée, il y avait soit pas de cocaïne du tout, soit une quantité extrêmement faible, peut-être 5, 10, 15%.
Donc si on résume, avec le phénomène de l'arnaque et ce dont on vient de parler avec vous, Guillaume Pavic, sur les produits de coupe, ça peut devenir vraiment un problème assez important selon avec quoi est coupée la cocaïne.
Tout à fait, mais c'est le constat même pour tous les produits. De toute façon, globalement, le monde de la drogue et du trafic, c'est truffé d'arnaques. Et on le remarque bien sur les saisies effectuées par les forces de l'ordre qui se font bien en amont des ventes. Les taux de pureté de la cocaïne sont plutôt bons. On va être sur les cocaïnes 60-70% de taux de pureté. Et c'est incomparable avec ce qui va être retrouvé sur le deal de rue, où on a des cocaïnes avec des taux de pureté qui sont extrêmement faibles, qui laissent à penser que le produit est vraiment beaucoup, beaucoup coupé.
Très bien. Alors, ceci pose la question forcément des moyens peut-être de prévention ou d'éducation pour les professionnels hein, des secteurs sociaux, médico-sociaux. Vous, Guillaume Pavic, dans l'un de vos rapports, donc vous soulignez l'existence donc de réseaux médico-sociaux qui accompagnent les personnes les plus dépendantes, mais vous soulignez aussi que la prévention en milieu festif a tendance à un peu s'essouffler hein, face au phénomène. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de porter un discours efficace de prévention vis-à-vis des consommateurs ?
Oui, c'est toujours difficile, effectivement, pour les professionnels d'avoir un discours relativement efficace, notamment sur la cocaïne, qui a une image vraiment d'un produit vraiment festif, une image assez intéressante. Pas diabolisé comme peut-être l'héroïne, par exemple. Mm-hmm. Là, le discours pourrait être un peu plus efficace. Et en plus, sur les espaces festifs, les professionnels sont confrontés à une population qui vient faire la fête et qui n'a pas forcément après envie de recevoir un discours de prévention. Il est pourtant assez important qu'il y ait ce type d'action sur les espaces festifs. On pense notamment au dispositif de réduction des risques, mm-hmm. Qui soit présent afin quand même de pouvoir apporter de l'information pour ceux qui le souhaitent et aussi pouvoir accompagner les personnes, notamment sur les modalités de consommation.
C'est quelque chose duquel vous êtes intéressé, peut-être Nicolas Legendre, dans le dossier ?
C'était pas le cœur du dossier, mais moi ça me fait réfléchir et ça me pose des questions quand même, ce que vient de dire Guillaume, au sujet de l'interdiction, de la criminalisation, de la prohibition, etc. Mm-hmm. Des drogues en général. Hein. Après, effectivement, on a différentes drogues, différents effets, mais je suis devant le constat de l'inefficacité des politiques publiques d'interdiction de consommation de certaines drogues. La question se pose et je tiens pas un discours pro-légalisation ou quoi que ce soit, mais je pose simplement la question, quelle est la meilleure solution ? Mmh. Pour permettre la meilleure prévention possible, pour limiter justement ce qu'on évoquait tout de suite, à savoir la coupe des produits et donc des effets néfastes sur la santé. La question est quand même posée, enfin, c'est un grand tabou, mais j'ai l'impression que quoi qu'on fasse pour interdire les drogues, on en consomme toujours, mmh. voire plus quand c'est interdit. Et les moyens qui sont mis, qui sont souvent d'ailleurs parfois un peu dérisoires, pour lutter contre le trafic et la consommation, ce sont des moyens qui ne sont pas mis pour la prévention. Donc, je trouve que ça pose quand même des sérieuses questions.
Un mot peut-être, Guillaume Pavic, sur ce point ?
C'est vrai que la question des moyens financiers, notamment des politiques publiques en matière de prévention, ça questionne effectivement. Les budgets alloués à la prévention sont quand même relativement faibles de nos jours.
Ce qu'on a l'impression aujourd'hui, que le meilleur moyen pour éradiquer hein, ou du moins atténuer le phénomène de la consommation de cocaïne, c'est finalement de s'attaquer aux dealers et de tarir les sources premières de la cocaïne. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas forcément aux consommateurs, mais c'est en arrêtant des dealers qu'on arrive à... qu'on parvient, j'ai envie de dire, à limiter la circulation du produit dans les rues.
C'est une des possibilités, mais comme on le disait tout à l'heure, vous pouvez arrêter des dealers de rue. Les têtes de réseau sont souvent toujours difficilement atteignables et le phénomène reste présent, en fait. S'attaquer aux dealers est une solution, mais certainement pas la plus efficace.
Tout à fait.
Sachant que quand on arrête un dealer, un autre prend sa place.
Et bien sur ces belles paroles, merci à tous les deux, hein, Guillaume Pavic, donc je rappelle coordinateur du dispositif Trend, et Nicolas Legendre, rédacteur en chef du mensuel de Rennes. Vous étiez donc bien dans Enjeux de santé sur Radio Campus Rennes. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr. Merci à tous les deux.
Merci.